La mort des cigales. Derrière le fort, sur un plateau pierreux, battu du vent, parfumé de maigre lavande et d'œillets sauvages, ou dans un trou d'eau qui suintait, les gamins allaient tendre des gluaux aux queues roses et aux merles de roche, il y avait un enclos blanc, planté de croix noires, avec un fossoyeur, ancien soldat de la grande armée, que la rumeur publique accusait de nourrir ses lapins de l'herbe des tombes, creusant tout le long du jour une éternelle fosse. Un grand tilleul faisait ombre au milieu, et quand il avait défleuri, nous en mangions les graines molles et douces, que nous appelions le pain des morts. Nous rêvions aux morts, à cause de ce pain, une existence de sous-terre, non pas effrayante précisément, mais vague, paresseuse et mystérieuse. Quelquefois les cloches sonnaient à l'église, alors on disait dans la ville « Ah, oh, le vieux Catignan a trépassé, la vieille Rarousse a rendu l'âme !» On racontait les circonstances. Son testament signé, le vieux Catignan avait beaucoup remercié le notaire, ainsi que les messieurs venus comme témoins. Et puis, pour montrer son usage du monde, il avait soupiré, cité du latin. « Siud mor mortus, siud mor mortus » Et il était mort. Quant à la Rarousse, elle gardait, paraît-il, dans sa table fermée, une robe de drap toute neuve que son fils lui avait envoyée de Marseille et qu'elle n'avait jamais osé porter, la trouvant trop belle pour une simple paysanne. Mais pendant sa maladie, les voisines l'avaient tant priée et suppliée qu'elle avait consenti à ce qu'on la lui mît lorsqu'elle serait morte. Et la brave femme répétait encore en riant une minute avant d'expirer « C'est là-haut qu'on va être étonné. Personne ne me reconnaîtra plus. Ici, les gens m'appelaient la Rarousse. Le bon Dieu me dira « Madame Rarousse ». Les plus hardis allaient voir Catignan et la Rarousse exposés devant leur porte. La coutume en durait encore. Sévères et reines avec leurs plus beaux habits, entre les cierges, dans la caisse ouverte que veillaient deux pénitents blancs en cagoule. Mais cela ne nous impressionnait guère. Cartignan et la Rarousse étaient des vieux. Pourquoi étaient-ils des vieux, c'est-à-dire des êtres maussades et lents, ne riant pas, ne criant pas, enfin d'une autre espèce que nous? Et par un sentiment d'égoïsme naïf et féroce, on trouvait juste, naturel, amusant presque, que la mort vint prendre les vieux. Bien entendu, on ne prévoyait pas le cas où grand-père, grand-mère seraient morts. L'enfant a peu d'idées générales, et puis, pour chacun de nous, grand-père et grand-mère n'étaient pas des vieux comme les autres. C'était grand-père et c'était grand-mère. Mais personne n'échappe au destin. Je devais bientôt connaître à mon tour, et avant mon tour, l'amertume des séparations douloureuses. J'arrivais alors sur mes 8 ans, et j'avais une camarade de mon âge que j'aimais d'une affection enfantine. Des cheveux d'or, des yeux bleus clairs, genre de beauté rare chez nous, où les filles brûlées et brunes ont longtemps l'air de garçonnets. On l'appelait indifféremment Ninette, Nine ou bien Domnine, du nom de son patron Domine, qui est un grand saint dans le pays. Quand, galopinant dans les bas quartiers, après la classe, nous passions sous la voûte sombre où débouche un antique égout, et que la bande prenait sa course en criant « Homme à la barrette rouge, attrape le dernier !» Je prenais la main de Domnine et, pour la faire mieux courir, je restais souvent le dernier, bien que j'eusse grand-peur de la barrette rouge. L'été, on nous laissait aller ensemble hors des remparts de la ville, jusqu'à la lisière des champs, ce qui nous semblait très loin. L'hiver, il m'arrivait de lui donner une aile de raisin pendu, des sorbes mûries sur la paille, et même de mon sucre, pour mettre dans son pain de noix. Un jour, Domnine ne vint plus chanter dans nos rondes les chansons qu'elle chantait si bien. « Garde les abeilles, Jeannette, garde les abeilles au pré. ni celle du pont de Marseille, sur lequel il pleut et soleille. Et quand il pleuvait et soleillait, quand, dans un ciel nuageux troué de belles éclaircies, le diable battait sa femme, Domnine n'était plus avec nous pour répéter en chœur l'incantation irrésistible qui force le dieu à se montrer. Viens vite, soleil, beau soleil, je te donnerai un rayon de miel. Mon ami Domnine était au lit. Un matin, assis sur le banc de pierre de sa porte, je vis le médecin descendre et je l'entendis qui disait « Oh, c'est fini, la petite ne passera pas la nuit. » Je compris alors vaguement qu'il m'arrivait un grand malheur. Triste et fiévreux, on me crut malade, et me dispensant de l'école, on me confia à Paul Parlin, un paysan qui faisait aller le petit bien de la famille et devait cet après-midi relever les serments de notre vigne de toute bise. C'était là mon remède ordinaire, et rarement mes maladies auraient résisté quelques heures de promenade à la vigne en compagnie de cet homme sentencieux et réfléchi qui savait le nom des plantes, la place des autres, reconnaissait les oiseaux à leurs chants et me paraissait un peu sorcier. Le plus souvent je voulais l'aider, mais cette fois je préférais rester tout seul, assis à l'écart, près de la source. Le travail fut long, il s'agissait, sans éborgner les jeunes pousses, de descendre les fagots de l'année d'avant, épars entre les souches, jusqu'au bas des allées où broutait l'âme. De temps en temps, Parle me criait « T'ennuies-tu, petit? Aussi t'as faim, cueille une figue !» Mais je n'avais pas faim, il ne m'ennuyait pas. Le cœur un peu gros, je pensais à Domnine. « Il faut pourtant achever aujourd'hui, nous nous en irons avec la lune !» Lorsque Peuparle eut achevé, lorsqu'il eut lié la charge de l'âne, il profita d'un reste de jour pour faire un feu de brindilles entre trois pierres et préparer une omelette d'œufs dénichée au poulailler et de fines herbes que nous cueillîmes. Puis on s'installa par terre sous la treille, qui entre ses ceps tortues pareilles à de grands serpents noirs laissait passer le regard des premières étoiles. La nuit était venue, et Peuparle n'avait pas apporté de lanterne, ne croyant pas rester si tard. Peuparle, sans perdre un morceau, raisonnait les choses de la terre et blâmait mon père sévèrement de conserver deux amandiers poussés au hasard dans sa vigne. Le soleil crée le vin et la vigne ne veut que l'ombre de l'homme. Moi, je ne mangeais pas, je ne comprenais guère. Et à mon chagrin s'ajoutait la mélancolie de ce long dîner dans le noir. Mais bientôt, dépassant la crête d'une roche, la lune apparut dans son plein et jeta sous la treille une blanche nappe de lumière où l'ombre des feuilles se découpait. Comme si la terre se fût éveillée, de chaque arbre, de chaque caillou, un bruit s'éleva. Les rainettes et les grillons entamèrent leur symphonie, et avec ces mille voix confuses, le cœur des beaux soirs commença. Peuparle s'était tu. Tout à coup, levant le doigt, « Chut, écoute !» Juste au-dessus de nous, vibrait solitaire un chant de cigale, un chant qui était aussi un cri étrange, comme immatériel. « Ça, fit Peuparle, c'est une cigale qui meurt !» Et gravement il ajouta, « Oh, le soleil fait chanter les cigales, mais avant de mourir, elle chante une dernière fois au clair de lune, parce que la lune, c'est le soleil des morts. » À cette idée de mort, j'éclatai en sanglots. « Mais il faut être fou, un grand garçon, de pleurer pour une cigale !» Et, me soulevant dans ses mains rudes, « Regarde bien, elle doit être là, sous le gros nœud, collée à l'écorce !» Elle était là, en effet. Je voyais ses ailes transparentes et son corselet brun poudré d'or. Oh, tu peux la prendre, elle ne bouge plus. Je la tenais entre mes doigts, immobile déjà et si légère. Je pensais à Domnine, je disais, voilà donc la mort, et pendant longtemps consolée. Je m'imaginais, ne trouvant plus à cela rien d'effrayant ni rien de bien triste, que l'on devait mourir, alors un soir au clair de lune, en chantant comme les cigales.